Bonsoir à tout le monde. Comme nous avons déjà commencé depuis quelque temps, nous avons notre méditation dans l'Épître aux Philippiens. Et c'est de nouveau, nous reprenons ces quelques versets qui se trouvent au chapitre 3. Chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 7. Chapitre 3, à partir du verset 7. Jusqu'au verset 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, donc nous avons ici ce passage que nous avons déjà médité à plusieurs reprises, peut-être c'est la quatrième fois aujourd'hui, et je pense qu'il y a encore la mesure pour plusieurs autres fois. Mais ici, nous avons vu les deux dernières semaines que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et puis, la deuxième fois, c'était même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. La semaine dernière, on a sauté ces paroles à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est vrai qu'il y a des multitudes de choses qui encombrent notre vie. Nous avons une vie humaine et nous n'en avons qu'une. Il y a des religions qui prévoient une réincarnation. Alors détrompez-vous, il n'y a pas de réincarnation. Vous le savez aussi bien que moi. Mais Satan essaierait toujours de nous faire croire qu'il y a une sorte de rattrapage à un certain moment. Mais ce qui est perdu est perdu. C'est pour cela que Paul, au verset 13, il dit « oubliant ce qui est en arrière ». Il y a des moments perdus. Il y a des situations qui ne reviendront pas. Elles sont perdues définitivement. J'appelle cela Kadesh Barnea. Peut-être vous ne connaissez pas Kadesh Barnea. Certains, oui, je vois des sourires. Kadesh Barnea, c'est un moment où le peuple d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, est arrivé en face du pays de la promesse. Et devant le pays de la promesse, eh bien, par incrédulité, le peuple n'a pas voulu rentrer. Et alors Dieu a dit, eh bien, puisque vous ne voulez pas rentrer, vous ne rentrerez pas, vous tournerez dans le désert. Et ils ont dit, non, maintenant on veut rentrer. Mais Dieu a dit non, c'est plus le temps de rentrer, c'est le temps de tourner dans le désert. Et ils sont allés et ils ont perdu. Parce que l'occasion était perdue. Dieu avait fourni une occasion, il fallait agir par la foi et l'homme a perdu cette occasion. Et c'est ce qui arrive dans notre vie, ce sont les occasions perdues. Et ces occasions perdues, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Si vous êtes toujours en train de pleurer sur votre passé, et sur là où vous n'avez pas réussi, et comment vous auriez dû faire, et comment toutes ces choses-là ne servent à rien. Ce qui est important, c'est l'avant. Nous sommes dans le présent, et nous nous préparons pour le futur. Et c'est comme cela que les choses avancent et qu'elles se gagnent. C'est quand on regarde en avant. Alors, c'est vrai que on peut regretter de ne pas avoir renoncé à tout à un moment donné de notre vie. Nous n'avons pas tout donné au Seigneur Jésus. Nous n'avons pas fait les bons choix. On a même fait les mauvais choix. Et même on en a fait parfois de très mauvais choix. Et des choix qui nous handicapent pour le restant de notre vie. Et ce sont des choix qui nous maintiennent en bas, alors qu'il aurait fallu. Mais oubliant ce qui est en arrière, on se porte vers ce qui est en avant. On ne détruit pas notre avenir avec notre passé. C'est quelque chose de très très important. Et donc, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Mais au point où nous vous êtes rendus aujourd'hui, cette parole est pour vous. C'est maintenant. Et puis, il est dit, et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et c'est cette connaissance de Jésus-Christ. On va s'arrêter aujourd'hui sur la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand on a lu les évangiles, on a lu quelques passages du Nouveau Testament, quelques prophéties de l'Ancien Testament, et on se dit, je connais Christ. Voilà. On connaît, on est renseigné sur Christ. Malheureusement, il y a des profondeurs de Christ que vous ne connaissez pas et des profondeurs que vous ne soupçonnez même pas. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est quand vous lisez la Bible, vous pouvez la lire de trois manières différentes. La première, c'est vous la lisez et vous comprenez le texte. C'est vous lisez le journal, vous lisez la Bible, vous lisez Victor Hugo, c'est le même niveau. Vous comprenez ce qui est dit. Bon, celui-là, je ne m'arrête pas. Ce n'est pas le plus important. Ensuite, il y a un autre niveau. C'est quand nous sommes chrétiens, on lit la Bible et on cherche à se renseigner sur les vérités spirituelles qui sont dans la Bible. Et ça, c'est quelque chose c'est une bonne chose. Mais ne croyez pas que c'est suffisant. Il y a un troisième niveau. C'est le troisième niveau. C'est quand Dieu nous parle et nous révèle sa personne, et nous dit qui il est. Alors, parfois, nous avons ce moment privilégié où nous lisons la parole de Dieu, et il y a un verset qui nous touche. Nous l'avons lu des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois même, mais ce jour-là, vous êtes touché. Je vais vous raconter encore peut-être cette petite expérience. J'ai appris par cœur un certain verset de Galates 2:20. Vous savez maintenant que je l'ai appris par cœur et bien par cœur parce que c'était pour moi très important. Et donc je me le récitais plusieurs fois par jour. Mais un jour, une quinzaine d'années plus tard, après l'avoir décidé de l'apprendre vraiment par cœur et pour le connaître vraiment, j'ai lu dans un livre de méditation juste une petite portion de ce verset. Il est dit « Le Fils de Dieu qui m'a aimé » et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ce jour-là, je peux vous dire, je suis tombé à genoux, et j'ai pleuré. J'ai réalisé que le Fils de Dieu m'avait aimé, et qu'il était mort pour moi. Mais je le savais. Cette connaissance-là, spirituellement, je l'avais. Mais il me manquait ce troisième niveau, c'est-à-dire connaître vraiment que Jésus-Christ est mort pour moi, parce qu'il m'aime. Et qu'il m'aime infiniment. Et je pourrais vous interroger, je suis persuadé qu'il y a des moments où vous avez compris certaines paroles de la Bible d'une manière tellement profonde que vous dites, mais ça c'est... Comment est-ce que j'ai pu ne pas le savoir avant ? C'est la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et même, il dit, mon Seigneur, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Parce qu'il y a tout ce que nous maintenons dans notre vie, tout ce qui est charnel, tout ce qui ne se donne pas à Dieu, tout ce qui ne marche pas dans l'obéissance à Dieu, tout ce qui nous embourbe, parce qu'on les regarde comme de la boue, alors ce sont des choses qui embourbent notre vie chrétienne. Nous sommes en train de patauger dans la boue parce que nous n'avons pas cédé à Dieu des choses qui sont sans valeur. Elles ont peut-être de la valeur dans ce monde, mais dans l'éternité, elles n'en ont aucune. Et même, elles ne passent même pas le seuil de l'éternité. Je me rappelle de cette phrase, c'était un groupe de personnes qui se retrouvaient chez le notaire après la mort d'un grand-oncle. Eh bien, un grand-oncle qui avait de l'argent et des maisons et pas mal de choses. Et alors, ils étaient tous. Pleurez pas le grand-oncle, il ne fallait pas se faire d'illusions. Mais se demander quelle est la part d'héritage que chacun allait avoir. Alors, ils arrivent chez le notaire et c'est le moment. Non, non, ils rencontrent le notaire au cimetière. C'est après qu'ils rencontrent. Au cimetière, il y a le notaire, c'est un village. Et puis, il y en a un qui ose quand même. Et alors, et qu'est-ce qu'il a laissé? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a laissé? Et le notaire se tourne vers lui et lui dit, mais il a tout laissé. Ça vous fait rire. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui réponde? Il a laissé 10 millions, mais il en a laissé peut-être même davantage, mais il a tout laissé, il n'a rien emporté. Et ce sont ces choses qui sont pour nous des gains et que n'emporteront pas de l'autre côté. Tout ce que vous avez, tout ce qui captive votre cœur, qui prend tellement d'intérêt, qui gaspille votre vie, toutes ces choses-là, vous ne les emporterez pas de l'autre côté. C'est que ce soit tôt, que ce soit tard, un jour, il faut aller de l'autre côté. Et qu'avons-nous emporté? Qu'est-ce que nous avons placé de l'autre côté? Il y a des choses qui nous maintiennent en bas, qui nous tiennent dans la boue et qui nous empêchent de grandir dans la vie chrétienne. Mais il y a l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence. Qu'est-ce que vous désirez? Une simple connaissance? Savoir qu'il est le Sauveur? Amen. Je crois que vous le savez et c'est une très bonne chose. Mais il y a plus. Il veut nous révéler davantage. Et il veut aller plus loin avec nous. Il veut que nous allions plus loin avec lui. Et il veut que nous faire des progrès. Il ne faut pas que nous restions dans la boue. C'est la boue de ce monde n'a absolument aucune valeur. Elle n'a pas de valeur dans ce monde non plus. Hein. C'est pas. C'est le. Nous avons une destinée céleste. Un jour, nous serons dans la présence de Dieu. Et même, ce sont ces paroles de Jean. C'est ce que nous sommes. Déjà, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Nous ne savons pas ce que nous serons dans l'éternité, dans la présence de Dieu. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne va pas nous faire descendre, il va nous faire monter. Qu'est-ce qu'il y a de plus que d'être un enfant de Dieu? Je laisse la question, il n'y a pas de réponse. Et nous sommes accrochés à des choses qui n'ont pas de valeur. Nous sommes accrochés à de la boue. Nous n'essayons pas de gagner Christ. Nous n'essayons pas de connaître Christ. Nous n'essayons pas de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des personnes, malheureusement, c'était dans le temps passé, qui ont donné leur vie de telle manière qu'ils ont dit, je gagne Christ. Je veux Christ dans ma vie. Je veux que Christ soit le premier dans ma vie et je veux le connaître. Et leur vie a marqué l'histoire parce que ce genre de décision ne laisse pas l'époque indifférente, hein. Les choses changent. Quand des chrétiens passent par cette expérience de renoncer à tout et de marcher avec Christ d'une manière résolue, dans une obéissance complète pour connaître Christ, gagner Christ, il y a des chrétiens qui cherchent être de meilleurs chrétiens. Bon, après, je ne veux pas le condamner, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des chrétiens qui cherchent à aller plus loin dans certaines choses, mais ils ont manqué le but essentiel. Le but essentiel, c'est Christ. Et même Paul va jusqu'à dire l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et travers de tous ces mots que nous avons dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, vous voyez que Paul tourne autour de Jésus-Christ constamment. C'est Jésus-Christ le point central de tout ce qu'il dit. Alors c'est vrai que ce n'est pas dit d'une manière très cartésienne, hein, très littéraire. Il n'emploie pas un style qui est très détaillé où il prend un point, deux points, trois points, etc. Mais c'est le style de Paul. C'est comme cela. Et c'est au travers de tout ce qu'il dit, eh bien, que nous découvrons qu'il y a une richesse qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Parce que il est tellement conscient de quelque chose, il y a une révélation dans son cœur, mais les mots humains ne suffisent pas. Et l'expression des pensées humaines ne peuvent pas définir complètement ce que Dieu lui montre dans ce qu'il écrit. Il y a quelque chose de si immense, de si grand, qu'il emploie des mots, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Nous, on voudrait dire, eh bien, la connaissance parfaite, mais il y a une excellence. C'est tout à l'heure, je me suis arrêté dans mes trois niveaux. Mais au troisième niveau, il y a des profondeurs. Et il y a des chrétiens qui vont plus profond que d'autres encore. Il y a des moments où Dieu peut nous parler et nous dire des choses, nous donner des confidences, nous parler de ce qu'il est et de sa personne, et même de ses projets et de ses plans. Vous lisez la parole de Dieu et elle est claire. Vous lisez la parole de Dieu, elle vous renseigne, elle vous amène plus loin, elle vous fait connaître les fonds de votre cœur. Elle montre aussi le fond de cette humanité. Elle vous montre aussi les plans de Dieu et la richesse de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Il y a des profondeurs qui nous dépassent. Je me rappelle de ce chrétien. Il avait une quarantaine d'années. Et puis un jour, sa femme est décédée. Mais la maladie a été très courte et il a perdu d'un coup. Mais il était très très attaché à sa femme. Mais il était beaucoup plus attaché au Seigneur encore, hein. Mais il n'y avait pas de compromis dans sa vie. Il aimait sa femme comme un homme doit aimer sa femme, et il aimait Christ comme un chrétien doit aimer Christ. Donc il n'y avait pas de confusion. Mais à partir de cette tristesse, Dieu a pu lui parler et lui montrer. Il y a une parole qui est venue dans son cœur. Il lui a dit, est-ce que tu aimais ta femme plus que moi? Alors il a dit, non, non. Je t'aime plus que je l'aimais. Il a dit, mais tu devrais te réjouir qu'elle est avec moi. Elle a quitté un monde de souffrance pour être avec moi, pour l'éternité. Et en racontant, il dit, le Seigneur m'a donné une telle paix, une immensité de paix et de joie dans mon cœur, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux avoir tant de joie alors que je viens de perdre ma femme que j'aimais tant? Vous savez, il y a des consolations dans la profondeur avec Dieu. Vous voyez des chrétiens, dans les moments difficiles, ils se désespèrent comme le monde. C'est exactement le même désespoir. Mais vous dites, mais vous n'avez pas de confiance que la personne que vous avez perdue est de l'autre côté. C'est vrai que vous encaissez un coup difficile, mais vous ne pouvez pas rester de marbre. Vous seriez même pas chrétien si vous étiez insensible. Mais néanmoins, il y a des consolations que Dieu nous donne. Il pourvoit à ce que nous soyons rassurés. Il nous parle. Il nous dit, n'aie pas peur, c'est moi. Et c'est comme quand les disciples étaient dans la barque. Hein, il vient, il leur dit, c'est moi. Trouvez pas cela étrange. Je ne veux pas déborder dans d'autres choses. Donc il y a cette excellence de la connaissance. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Apprenez à connaître Jésus-Christ. Apprenez à savoir qu'il y a des profondeurs de Christ. Et nous allons prendre quelques versets. D'abord, nous allons prendre l'évangile de Jean. Jean, chapitre 14. Jean 14, verset 21. Alors 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est une promesse. C'est une promesse pour ceux qui gardent les commandements. Ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Et quel est ce commandement qui nous a été donné? Dès le commencement, hein, c'est dans ce passage-là que le Seigneur Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est aimez-vous les uns les autres. Si vous n'avez pas d'amour les uns pour les autres, ce n'est pas la peine. Vous ne grandirez pas dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que grandir dans la connaissance de Jésus-Christ commence par aimez-vous les uns les autres. Et c'est le contexte même de ce verset. C'est une promesse. Il se fera connaître à nous. Mais quand on garde ses commandements, et ce commandement en particulier, c'est très très important cela. Et malheureusement, je crois que beaucoup de chrétiens ont des distractions avec ce verset. Et vous savez, il y a des manières de parler les uns des autres qui ne sont pas du tout chrétiennes. Et même dans le monde, ça ne se tolère même pas. Je me rappelle avoir été dans un organisme, je ne citerai pas le nom, qui est très réputé. Si jamais en table on parlait d'une autre personne qui n'était pas présente en termes négatifs, quelqu'un disait « Attention, là tu fais quelque chose de mal. Bah, merci pour elle. » Alors il y avait la cagnotte et il fallait mettre quelque chose dans la cagnotte. Et vous savez, on faisait des bons repas avec la cagnotte. Ah oui, vous pouvez vous garantir. Mais c'était dans le monde. Et ce n'était pas toléré de parler négativement sur une personne. Et je suis parfois scandalisé que dans l'Église, ces choses-là se passent. Et j'ai entendu. Et je sais de quoi je parle. Hein? Donc ce n'est même pas la peine de dire autre chose. Mais il est parlé ici de l'amour que nous avons les uns avec les autres. C'est l'amour de Christ. Nous nous aimons les uns les autres. Et on commence par ne parler mal les uns des autres. Et on prie pour nos frères et sœurs. On les aime sincèrement. On désire leur progrès. Et si un frère tombe, on ne l'enfonce pas. Et au contraire, on cherche à le relever et à l'aider à se relever. Vous savez, quand quelqu'un est tombé, c'est une grande tristesse. Parce que le corps de Christ a été atteint dans cette personne. Je me rappelle un jour, je ne vais pas me citer un exemple parce que je ne suis pas forcément un bon exemple. Dans celui-là, oui, mais pas dans les autres. Donc, prenez avec beaucoup de relativité ce que je dis. Mais il y a une personne qui est tombée très, très gravement. Et j'ai été malade. Hein. C'est parce que j'ai suivi cette personne de près. J'essayais de l'aider au maximum. J'ai passé Je ne sais pas tout ce que j'ai pu faire pour cette personne pour qu'elle sorte de ses problèmes. Mais un jour, elle est tombée et c'était définitif. Elle n'est plus jamais relevée. Elle est tombée très bas. Et pendant plusieurs jours, je n'ai été incapable de manger. Incapable. Je n'ai pu que crier à Dieu et prier. Prier, crier, demander à Dieu d'intervenir. C'était jour et nuit. Je me réveillais la nuit. C'est où je m'endormais et cela revenait. Il y a des moments où on est dans l'angoisse à cause des frères et sœurs qui tombent, à cause de l'Église qui ne grandit pas comme elle devrait grandir, les âmes perdues qui sont perdues et qui restent dans la perdition. Il y a des fardeaux qui pèsent sur nos cœurs. Ce sont des fardeaux parce qu'on aime ces gens-là. On les aime réellement. On ne se réjouit pas de l'injustice. Donc on grandit dans la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, parce qu'on obéit au commandement de Dieu. Et prenez soin de lire bien la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit. Vous n'êtes pas innocent si vous ne savez pas parce que vous ne voulez pas savoir. Vous lisez et vous devez savoir et vous devez chercher ce que Dieu dit dans sa parole. Et qu'est-ce qu'il vous demande ? Soyez au courant. Parce que l'ignorance n'est pas une... On ne se sauve pas avec l'ignorance. Et on ne peut pas dire « je ne savais pas ». On doit savoir. Ne pas savoir, on est coupable de ne pas savoir. Quand il y a des moments difficiles, et nous vivons dans un monde difficile, eh bien nous devons savoir. Il y a un ennemi, il y a des frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui doivent avancer. Eh bien nous devons grandir. Et on grandit parce qu'on cherche à savoir et on va plus loin dans la parole de Dieu, on sonde les Écritures, on veut savoir ce que Dieu nous dit et quand on le sait, eh bien on met en pratique ce que Dieu nous dit. Donc je passe à un autre verset qui se trouve dans Colossiens au chapitre 2. Alors c'est un verset d'une très très grande profondeur, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais Colossiens chapitre 2 verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est. Alors je vous rappelle, ici, il est dit qu'ils soient unis dans la charité et qu'ils connaissent et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Alors là aussi, il y a l'amour, cette charité. Nous avons l'habitude de remplacer charité par amour. Mais en fait, le meilleur mot serait bonté. Voilà. On aurait plutôt de la bonté, quoique ce n'est pas aussi fort que charité, mais c'est meilleur que de l'amour. L'amour peut être qu'un sentiment. Mais la bonté et la charité, c'est une action. On ne laisse pas nos frères dans le besoin. On ne les laisse pas on n'est pas indifférent vis-à-vis d'eux. On fait quelque chose pour eux. Et on est inquiet pour eux. Et on désire leur progrès, on désire qu'ils grandissent et qu'ils s'affermissent. Et puis, il est enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère. C'est une pleine intelligence. Nous ne pouvons pas connaître Christ d'une autre manière. Hein. Et là, il nous est dit, c'est le mystère. C'est le mystère de Dieu, Christ. Là, vous voyez une dimension de Christ que vous n'auriez peut-être même pas imaginée. Il y a un mystère, il y a quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est à découvrir. Nous sommes, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien les choses où il y a un mystère. J'aime bien me creuser les méninges pour savoir. Alors, eh bien, dans la parole de Dieu, il y a un mystère, Christ. Alors vous avez l'impression que vous lisez la Bible, vous ouvrez et puis vous trouvez ben, de toutes les pages on trouve Christ et de toutes les manières et c'est un mystère. Je me rappelle il y a quelques années, j'avais décidé de chercher Christ d'une manière un peu différente. Alors j'ai voulu trouver l'humilité de Christ. Il n'y a pas vraiment, sauf qu'il dit, je suis doux et humble de cœur. Hein? Mais il n'y a pas vraiment de référence à l'humilité de Jésus-Christ. Mais j'ai cherché, j'ai pris l'évangile de Jean. Dit, bah, tu vas vite fait, tu vas trouver deux, trois versets qui vont te parler de l'humilité. J'étais stupéfait. Alors j'ai mis un H à côté des versets qui parlaient de l'humilité. C'est une forêt. C'est dans l'évangile de Jean, vous allez trouver des multitudes. C'est pas dit. Mais ce sont des réactions humbles, ce sont des manières d'être humbles, ce sont des paroles humbles. Et vous verrez combien de fois il fait référence à son père plutôt qu'à lui. Et j'étais très surpris de découvrir à quel point le Seigneur Jésus était humble. Et là, je ne vous parle que de l'humilité, mais il y a tout le reste. Il y a un mystère. Et plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous l'approfondissons en recherchant Christ, et plus il y a une découverte de Christ. Il y a des horizons qui se découvrent à nos yeux, qui sont immenses, qui dépassent tout ce que vous auriez pu imaginer. Vous croyez que ça va se terminer en deux mots, et vous dites, mais il y a une connaissance. Et je peux vous dire, la personne que l'on connaît le moins, c'est Christ. Il y a cette parole dans l'évangile de Jean. Hein. Philippe est venu et il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et le Seigneur Jésus lui a dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que en voyant Jésus-Christ, on voyait le Père. On ne voyait pas Jésus-Christ. Jamais personne n'a vu Jésus-Christ. Les paroles, les actes, tout cela, c'était les actes du Père au travers du Fils, mais le Fils n'était pas révélé. Il ne s'est pas révélé lui-même. Il n'a pas parlé de lui-même. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui les dis, c'est le Père qui m'a envoyé et qui m'a dit de dire. Les œuvres que je fais témoignent de ce que le Père. Et puis à chaque fois, c'est le Père. Et on n'a pas vu Christ. Et quand Paul pouvait dire, hein, si nous l'avons connu d'une manière visible, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a une manière de le voir visiblement qui faisait qu'on ne le voyait pas finalement, on voyait le Père, mais il y a une nouvelle manière où on découvre Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui parle et qui nous révèle Christ. Quand il sera venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ça dans la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne qui nous révèle Christ, le mystère de Christ. Et puis, il y a un troisième verset que j'aimerais bien lire avec vous. C'est 2 Pierre 1, verset 8. Alors, il y a tout un passage hein, sur tout ce que nous devons mettre les unes après les autres, les choses que nous devons avoir. Et le verset 8, « Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc vous avez, faites tous vos efforts, au verset 5, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, on y revient toujours, hein, car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront ni stériles, ni oisifs pour la connaissance de Jésus-Christ. Et il y a malheureusement des chrétiens qui sont stériles et oisifs par rapport à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que laisse entendre ce verset. Et il y a le verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. » Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ce sont des termes de jugement. Quand nous lisons cela, nous disons, mais il y a des chrétiens qui n'ont fait aucun progrès. Parce qu'ils n'ont jamais fait de progrès en Jésus-Christ, en fait, les progrès qu'ils ont faits sont à un niveau si bas que ce n'est même plus la peine d'en parler. Ils sont oisifs et stériles pour la connaissance de Jésus-Christ. Ils ont une connaissance superficielle, une connaissance qui est... Voilà, on a vite fait de faire le tour. Hein. Ils ont lu les quatre évangiles et ils ont renseigné sur l'histoire de Jésus-Christ et les événements de son histoire. Voilà, la multiplication des pains, et puis il a chassé les vendeurs du temple, et ça s'est passé à tel moment et à telle fête, etc. Ça veut dire toutes ces choses-là. Mais cette connaissance n'est pas suffisante. Je ne veux pas la mépriser, hein. Elle est très importante, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que Paul disait aux Philippiens. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il y a des choses qui nous empêchent de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et ces choses-là, eh bien, elles sont à mettre de côté. Si vous voulez faire une course, il faut vider ses poches. Si vous avez, vous avez peut-être, il m'est arrivé, je me rappelle, j'avais fait des courses de demi-fond il y a bien longtemps. Et alors, c'était à l'école. Et alors, je suis arrivé bien placé quand même. Hein. On était 1000 et j'étais arrivé 6e. Donc, c'était une bonne chose. J'étais content de ma performance. Mais jamais, jamais, j'aurais mis des choses dans mes poches. Hein. Je me rappelle, c'était dans un Tintin. C'est une histoire qui... C'était le capitaine Doc, il était dans les Andes. Et il rentre dans une grotte et il trouve de l'or. Alors, il en met dans ses poches. Et puis Tintin lui dit, mais il ne faut pas emporter. Non, non, c'est juste pour souvenir. C'est comme un souvenir. Et il remplit ses poches avec de l'or. Et puis, quand il arrive à un étroit passage, il est obligé de vider un peu ses poches. Mais il passe difficilement avec... finalement... Et il arrive à passer, et puis au fur et à mesure, il en laisse, parce que c'est étroit et c'est difficile, il faut monter, et il est fatigué, il est obligé à chaque fois de laisser un petit peu de son or. Et puis jusqu'au moment où il va dans la rivière, et alors dans la rivière, il va se noyer. Alors il est obligé de vider ses poches complètement. Et alors là, il regrette. Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai été riche. Et j'ai plus rien maintenant. Mais beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils vident et ils donnent un petit peu à Dieu. Et puis un petit peu, bah c'est, tu me demandes encore ça. Oh, je l'ai refusé, ça fait 20 ans que je le refuse. Mais bon, je cède parce que je ne peux pas faire autrement. Et puis, on marchande avec Dieu. On ne lui donne pas tout définitivement, tout d'un coup. Et comme cela, nous perdons notre vie jour après jour, parce qu'on n'a pas tout donné. On a presque tout donné, mais l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ nous est refusée, parce que tout n'est pas donné, parce qu'on n'a pas regardé ces choses comme une perte. Elles ont encore de l'intérêt, et nous y mettons encore nos yeux, et nous aimons bien encore regarder et nous dire, oh là là, j'ai encore ceci, j'ai encore ça. Ces choses nous captivent encore. On ne les a pas regardées comme une perte, comme quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui n'a pas de valeur. Paul disait aux Corinthiens, usez du monde comme n'en usons pas. Nous sommes dans le monde, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin de multitudes de choses dans ce monde. Mais le problème, c'est que nous y attachons notre cœur. Et qu'est-ce qu'il faut? Que l'on perde tout pour que vraiment on soit détaché de ces choses? Est-ce que nous ne pouvons pas nous détacher avant de les avoir perdues? Qu'elles soient, bon, ben c'est insignifiant, ça n'a aucune valeur. Que je les ai ou que je ne les ai pas, ça ne changera rien dans ma vie chrétienne. Ce qui est important, c'est Christ. C'est Christ qui doit prendre la première place. Et nous avons bien des choses encore à dire sur ce passage. Parce que le centre de tout, c'est Jésus-Christ. Toute foi chrétienne qui n'est pas centrée sur Jésus-Christ, c'est n'est pas bonne. Elle est le comment dire? Elle nous amuse. Nous avons une forme chrétienne. Nous connaissons peut-être des versets par cœur. Nous sommes réguliers dans nos réunions. Nous faisons des multitudes de choses, mais sans Christ. Ce n'est pas Christ, c'est moi. Ce sont mes œuvres. C'est ce que moi j'accomplis. Mais je ne recherche pas Christ. Et c'est ça le plus important. Rechercher Christ, connaître Christ, marcher avec Christ. Que Christ soit la lumière de nos vies, qu'il soit celui qui remplit toute notre vie, qui prend toute la place dans notre vie. Et je peux vous dire, il y a bien des choses qui disparaissent dès que Christ vient. C'est comme quand la lumière arrive dans une pièce. Elle est dans les ténèbres et dans l'obscurité. Et dès que la lumière arrive, eh ben, les ténèbres ne font qu'une chose, cesser d'être là. Et c'est le propre, justement, de la lumière, d'en faire disparaître les ténèbres. Et le Seigneur Jésus est la lumière. Il est la lumière du monde. Mais il est la lumière de notre vie aussi. Et s'il éclaire votre vie, alors les choses des ténèbres cesseront d'être dans votre vie. Parce qu'il ne peut pas y avoir à la fois la lumière et les ténèbres. C'est soit l'une, soit l'autre. Si Christ est dans votre vie, alors les ténèbres disparaîtront. Mais ne vous occupez pas des ténèbres. Occupez-vous de Christ. Occupez-vous de la lumière dans votre vie. Et par nature, les ténèbres cesseront devant la lumière.